Ce qu'on demande d'un berger, c'est qu'il s'occupe de ses brebis, et c'est, dirons-nous, à la moindre des choses. Un bon pasteur s'inquiète d'abord du bien-être de son troupeau et ensuite de son petit confort. Il protège les brebis contre les prédateurs, il s'assure qu'elles sont toujours en sécurité et qu'elles ont de quoi se nourrir. Il traite ses animaux avec douceur et les soigne quand ils sont malades. Les rois et dirigeants politiques de Juda sont souvent appelés « bergers ». Mais ils n'ont jamais été à la hauteur de leurs fonctions. Je commence de lire le chapitre 34 d'Ézéchiel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Prophétise et dis à ces bergers. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. » Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine, mais vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'était écartée. Vous n'avez pas cherché celle qui était perdue, non. Vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Depuis Salomon, la plupart des rois d'Israël et de Juda sont des rapaces. Ils tondent un maximum leur troupeau, c'est-à-dire le peuple, pour en tirer un gain tout personnel plutôt que de le conduire dans le sentier de la justice, ce qui est le rôle que l'Éternel leur a pourtant assigné. Ces rois ne se soucient pas de leurs sujets souffrants, indigents ou opprimés, ni de punir ceux qui se livrent au mal. Je continue. Mes brebis se sont dispersées faute de bergers. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays, sans que personne ne prenne soin ou aille à leur recherche. Des conquérants païens ont attaqué Israël. Le royaume des 10 tribus du Nord a été déporté par les Assyriens et Juda par les Babyloniens. Les Israélites ont fui en Égypte et ceux qui restent au pays doivent se débrouiller comme ils peuvent. Je continue plus loin. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare. Je vais m'en prendre à ces bergers. Je leur demanderai mes brebis et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Ainsi, ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche. Elles ne leur serviront plus de nourriture. Cette menace s'est accomplie pour plusieurs rois, dont Sédécias, qui fut le dernier. Je continue en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger va à la recherche de son troupeau le jour où il le trouve dispersé, je les ferai sortir de chez les peuples et je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai dans leur propre pays. À partir d'ici, le message d'Ézéchiel consiste principalement en paroles de réconfort. L'Éternel, le vrai berger, va intervenir afin de mettre fin à la triste situation de son peuple et le ramener chez lui. Cette prophétie concerne le retour de l'exil babylonien, mais surtout la fin des temps, quand, après la grande tribulation, tous les Juifs dispersés par les persécutions de l'Antichrist reviendront dans leur patrie et entreront dans le millénium. Les évangiles rapportent que Jésus a déclaré « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Jésus est le bon berger, le grand berger, le souverain pasteur et le chef des bergers. Je continue le texte. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera éloignée. Je panserai celle qui a une patte cassée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. La brebis grasse et forte représente les Israélites riches et puissants qui ont exploité les faibles. À la fin des temps, ces personnages seront écartés du troupeau de Dieu, tandis que le souverain pasteur guérira toutes les misères des brebis qui lui appartiennent. Matthieu rapporte qu'une fois, Jésus a dit à ses disciples, « Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée ?» Le bon berger ne se contente pas de 99 brebis qui lui restent, mais s'inquiète de celle qui lui manque. Si le croyant entre dans le royaume des cieux, ce n'est pas parce qu'il a une super brebis, car elles sont toutes stupides. Non, s'il a droit au paradis, c'est grâce à son berger qui est fidèle et ne perd pas en route une seule de ses brebis. Je continue le texte en comprimant. Et vous, mon troupeau, voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare. Je prononcerai mon jugement entre brebis faibles et brebis grasses, béliers et boucs. Vous avez bousculé du flanc et de l'épaule toutes les brebis faibles. Vous les avez frappées de vos cornes jusqu'à ce que vous les aviez chassées dehors. C'est pourquoi je viendrai au secours de mon troupeau et il ne sera plus livré au pillage. Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis. La justice sociale est un terme fréquent dans les écrits des prophètes. Les grands qui, en Israël, détiennent le pouvoir ne se contentent pas de profiter des biens du pays, mais ils en privent les faibles, qui ont pourtant droit aussi bien qu'eux. Les impies se reconnaissent au fait qu'ils piétinent les pauvres, mais Dieu opérera un tri. Ce passage anticipe le jugement entre les brebis et les boucs, le bon grain et l'ivraie dont Jésus a parlé dans ses paraboles. Je continue. J'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il prendra soin d'elles et sera leur berger. Il s'agit du second David, le Messie de la lignée de David qui régnera sur tous les Israélites rescapés de la grande tribulation. Il rétablira la royauté et l'unité primitive politique et religieuse du peuple élu. David est le père fondateur de la dynastie qui porte son nom et la figure du grand roi futur promis à Israël. Jésus est ce roi messianique et il portera le nom de David comme titre dynastique de la même manière que les monarques égyptiens s'appellent Pharaon. Je continue. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Le mot prince désigne le roi messianique Jésus-Christ, ce que confirme un passage parallèle où il est dit « Mon serviteur David sera leur roi. Il sera l'unique berger pour eux tous. » Je continue. Je conclurai avec elles, les brebis, une alliance qui leur garantira la paix. Je débarrasserai le pays des bêtes féroces, de sorte que mes brebis pourront habiter en toute sécurité dans les steppes et dormir dans les forêts. Dieu conclura une alliance nouvelle et éternelle qui sera en vigueur pendant le règne millénaire du Messie. L'Éternel s'engage à protéger son peuple contre les bêtes féroces, c'est-à-dire les nations païennes qui jadis ravageaient le pays. Même les forêts, l'endroit généralement le plus dangereux pour une brebis, seront paisibles et il n'y aura donc plus aucun danger nulle part. Je continue. Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. La colline de Sion, sur laquelle est bâtie Jérusalem, représente le lieu de la présence divine. La fertilité de la Palestine dépend des deux saisons de pluie, en octobre-novembre et en mars-avril. Dieu enverra des pluies de bénédiction et non des tempêtes qui détruisent tout sur leur passage. Je continue plus loin ce chapitre 34. Vous, mes brebis, vous qui faites partie du troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes et moi, je suis votre Dieu, le Seigneur l'Éternel le déclare. Dieu rappelle aux Israélites leur faiblesse pour bien leur faire sentir toute la bonté qu'il manifeste à leur égard en les appelant mes brebis et en se proclamant leur Dieu. Lors de sa première venue, le Christ a été rejeté par les Juifs, ce qui leur a attiré une nouvelle série de calamités qui durent toujours. Et ce ne sera qu'à la fin de la grande tribulation, quand le nouvel Israël se soumettra au sceptre du nouveau David, qu'il recevra toutes les bénédictions promises. Nous arrivons au chapitre 35, où on apprend qu'avant la restauration d'Israël, Dieu doit juger le monde païen. Je commence de lire ce chapitre. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, dirige ton regard en direction du mont Séir et prophétise contre lui. Et dis-lui, le Seigneur l'Éternel dit ceci. Je vais m'en prendre à toi, montagne de Séir. Je vais étendre ma main contre toi, te transformer en une terre dévastée et désolée. Je mettrai tes villes en ruine. Tu seras dévasté et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Puisque tu as sans cesse nourri de la haine contre les Israélites et que tu les as livrés à l'épée au temps de leur détresse, au jour où leur péché a été puni, à cause de cela, aussi vrai que je vis, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai en sang. Le sang te poursuivra. Le mont Séir désigne le royaume d'Édom, qui se trouve dans la vallée et sur les flancs des deux chaînes de montagnes allant du sud de la mer Morte au golfe d'Aqaba, qui est le bras oriental de la mer Rouge. Édom est le frère ennemi et jumeau de Jacob, le père de la nation d'Israël. Mais ici, la montagne de Séir représente toutes les nations hostiles à l'Éternel et à son peuple, et contraste avec Israël restauré. Je continue plus loin en compressant. Parce que tu as dit, ces deux nations, Israël et Juda, de même que leurs deux pays, seront à moi. Et j'en prendrai possession, bien que l'Éternel y réside. Tu as dit, les voilà dévastées. Elles me sont livrées comme une proie à dévorer. Maintenant que le royaume des dix tribus du Nord et de Juda sont détruits, le premier par les Assyriens, le second par les Babyloniens, les Édomites veulent s'approprier leur territoire. Mais ce sera usurpé l'Éternel, le vrai propriétaire du pays de Canaan. Profanes, comme leurs ancêtres, les Édomites sont des brutes épaisses qui ne voient que le côté matériel des choses. Je continue plus loin et finis de lire le chapitre 35. Puisque tu t'es réjoui de la dévastation du patrimoine d'Israël, je te ferai de même. Tu seras dévasté, montagne de Séir, et Édom tout entier, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Pétra, capitale d'Édom, existe toujours, mais elle est déserte et sert de repère aux animaux sauvages. Ce qui est arrivé à Édom est une leçon pour le monde entier. Dieu jugera les nations selon la façon dont ils auront traité Israël. Nous arrivons au chapitre 36, qui est le pendant positif du chapitre 6, qui annonçait la destruction de Juda. Je commence à le lire en compressant. Et toi, fils d'homme, prophétise, parle aux montagnes d'Israël et dis, parce que l'ennemi s'est écrié sur vous, ah ah, ces antiques auteurs nous sont échus en possession. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, aux montagnes, aux collines, aux cours d'eau, aux vallons, aux ruines désolées et aux cités abandonnées qui ont été pillées par les nations des alentours et qui sont devenues l'objet de leur sarcasme. Oui, dans l'ardente indignation de mon amour que tu as bafoué, je vais adresser des menaces au reste des nations et à Édom tout entier, car le cœur tout joyeux et le mépris dans l'âme, ils se sont tous attribués mon pays comme possession pour en piller les pâturages. À cause de cela, va prophétise sur le pays d'Israël. J'en ai fait le serment. Les nations d'alentour seront chargées aussi du poids de leurs opprobes. La nature et surtout les montagnes d'Israël qui se trouvent au centre du pays sont ici personnifiées. La jalousie de l'Éternel est excitée par la mainmise des nations païennes sur son pays et par le mépris témoigné à son peuple. Il va donc venger son pays et son peuple. Quand Dieu jugera le monde, il le videra de ses habitants car il ne permettra pas que des œuvres iniques entrent dans le royaume messianique. Matthieu rapporte que dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Cette promesse s'accomplira lorsque Jésus reviendra pour établir son règne de 1000 ans sur terre. Je continue le texte en compressant. « Tandis que vous, montagne d'Israël, vous serez de nouveau cultivés et ensemencés, et je multiplierai sur votre sol les hommes, la communauté d'Israël dans sa totalité. Les villes seront habitées, les ruines seront rebâties. » Les descendants dispersés du royaume des 10 tribus du Nord et de Juda seront ramenés au pays. Le retour d'exil babylonien est un accomplissement partiel de cette prophétie. Je continue. Je ferai abonder sur vous les hommes et les bêtes. Ils seront très nombreux et se multiplieront. Je vous repeuplerai comme vous l'étiez autrefois et je vous ferai plus de bien qu'auparavant et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Cette multiplication des habitants rappelle ce qui s'est passé en Égypte et confirme la promesse faite par l'Éternel à Abraham. Dieu s'est d'abord révélé en punissant sévèrement son peuple. Maintenant, c'est en le rétablissant. Je continue. Je ferai parcourir votre sol par des hommes de mon peuple Israël. Ils te posséderont au pays d'Israël et tu seras leur patrimoine, et tu ne les priveras plus de leurs enfants. Eh bien, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne priveras plus ton peuple de ses enfants. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Quand la Palestine est bénie par Dieu, c'est un Éden. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Si la pluie manque, c'est la famine. Et si des nations conquérantes la traversent, comme ce fut souvent le cas, c'est la destruction. Je continue plus loin en compressant. Fils d'homme, lorsque les gens de la communauté d'Israël habitaient dans leur propre pays, ils l'ont souillé par leur manière de vivre et leurs actes. Je les ai condamnés comme le méritaient leur conduite et leurs actes. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les nations parmi lesquelles ils ont été bannis, ils m'ont déshonoré, moi, qui suis saint. C'est pourquoi, dit à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même. Après s'être adressé aux montagnes et à la terre d'Israël, Dieu parle maintenant au peuple. Comme le nom d'Israël est lié à celui de l'Éternel, sa détresse le met en cause l'honneur de son haut Dieu. Les nations pensent que l'exil d'Israël est dû à l'impuissance de son Dieu à le protéger de ses ennemis. Mais son rétablissement dans son propre pays prouvera que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant, et ainsi son nom sera honoré de tous. Je continue plus loin. Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Dans ces quelques lignes se trouvent de grandes doctrines du Nouveau Testament. Conversion, repentance, pardon des péchés, régénération, nouvelle naissance, don du Saint-Esprit, bonne disposition du croyant vers Dieu et désir de lui obéir. La transformation intérieure des Israélites, comme de tout fidèle, est l'œuvre du Saint-Esprit représentée par l'eau pure qui purifie l'homme de ses souillures. Ce passage est le pendant de la promesse que fait Jérémie d'une nouvelle alliance. Je continue. « Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je commanderai au blé de pousser. Je le ferai abonder. Et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les récoltes des champs pour que, jamais plus, les nations ne se moquent de vous parce que vous souffrez de la famine. » Les nations païennes disent des Israélites, « C'est un peuple d'affamés. » Et en effet, comme ils subissent souvent la sécheresse, qui est un châtiment de Dieu à cause de leur idolâtrie endémique, ils souffrent de famine à répétition, ce qui les force à chercher leur pain en Égypte. Je continue. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables, et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. L'œuvre du Saint-Esprit suscitera chez les Israélites une véritable prise de conscience de leurs fautes et une profonde repentance. Je continue. Mais sachez-le bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite et rougissez-en. Voici un rappel salutaire. Ces bénédictions ne dépendent pas tant de l'attitude des Israélites que de Dieu qui les accorde afin d'honorer son nom. Je continue. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes et l'on rebâtira ce qui est en ruine. Ces paroles rappellent la relation étroite entre le renouvellement spirituel du peuple élu et la splendeur de son pays. Je continue. Alors, les nations qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui ai rebâti ce qui était démoli et replanté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, je l'ai promis et je le réaliserai. Nouveau rappel salutaire. C'est Dieu qui fait tout, aussi bien dans le cœur de l'homme que dans son environnement. Je finis de lire maintenant le chapitre 38. Les villes, aujourd'hui en ruine, seront remplies de troupeaux d'hommes, tout comme Jérusalem qui, lors de ses fêtes cultuelles, fourmille d'animaux consacrés, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Le retour de l'exil est un petit pas vers l'accomplissement de ses promesses. Israël rentra dans son pays, purifié de son idolâtrie, mais le peuple ne s'est pas réellement converti à l'Éternel, et de nouveaux jugements l'ont frappé. Cependant, un jour viendra où la grâce reprendra ses droits et les promesses de Dieu s'accompliront pleinement, d'abord envers Israël et ensuite à travers lui pour le monde entier.